Le psaume 130 est en effet un psaume bien connu parce qu'il a été utilisé plutôt pendant des siècles et des siècles dans la liturgie funèbre. On le connaît d'ailleurs à cause de cela, on en connaît plus le début en latin qu'en français, « De profundis a te clamavi domine », c'est-à-dire « des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». Je pense qu'on a utilisé cela, ce psaume, dans la liturgie funèbre parce qu'il est question de profondeur, il est question d'abîme, et donc on peut penser qu'il s'agit là de l'abîme de la mort. Mais je pense néanmoins que cela ne convient pas tout à fait parce que les morts ne prient pas Dieu, et donc ce ne sont pas ceux qui sont dans l'abîme de la mort qui vont prier ou clamer à Dieu quoi que ce soit. Alors, faut-il penser que l'abîme dont il est question là n'est pas l'abîme de la mort, mais plutôt l'abîme du deuil, c'est-à-dire de la souffrance, de l'épreuve. Et en effet, là, il y a quelque chose à faire. Que devons-nous faire lorsque nous sommes dans les profondeurs de l'abîme, quand nous sommes dans l'épreuve, dans le noir, dans la fosse, dans le gouffre qui veut nous engloutir? Ce qu'il y a à faire, c'est dit dans le psaume, il faut crier, appeler, proclamer. Des profondeurs, je crie vers toi, des profondeurs, je t'appelle. Et en même temps, cette lecture ne me satisfait pas entièrement. Parce que vous savez que j'ai pour principe l'idée que tout passage de la Bible convient à chacun, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Or, tout le monde ne vient pas à écouter ce psaume avec un sentiment profond de deuil qui l'engloutisse. Alors on pourrait dire bien sûr que même si nous n'avons pas forcément de très gros chagrins, de très grosses douleurs qui veuillent nous engloutir à l'instant même, néanmoins chacun a des deuils, des petits deuils, des difficultés, des douleurs, et ça c'est évident, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, on en a toujours. Mais même je pourrais aller plus loin en disant que on peut même lire ce psaume si on est dans la plus grande des joies. Parce que je crois qu'il n'y a pas que la tristesse qui soit profonde. Et il y a aussi de la profondeur possible dans la joie. Le psaume ne dit pas « je t'appelle du séjour des morts » ou « je t'appelle de l'épreuve ». Il dit « je t'appelle depuis la profondeur ». Alors s'il est vrai que la souffrance est une profondeur, parce que peut-être que la souffrance nous approfondit ou que l'épreuve nous empêche de rester dans le superficiel. Il y a néanmoins aussi, je crois, des joies qui sont profondes. Et c'est pourquoi il ne faut pas forcément comprendre cette profondeur d'où on appelle Dieu comme étant celle de l'épreuve. Ça peut être aussi une profondeur positive, celle d'une joie extraordinaire qui approfondit notre être. Et d'ailleurs, dans le psaume 92, au verset 6, le psalmiste dit, en parlant de Dieu, que tes pensées sont profondes. Et on a là le même mot, d'ailleurs, qu'on trouve dans ce psaume 130. Et les pensées de Dieu sont profondes parce que, justement, elles ont quelque chose qui dépasse la superficialité. La profondeur, c'est ce qui n'est pas superficiel. La profondeur, c'est ce qui est contre l'apparence, c'est ce qui est contre le passager. Et donc, cette profondeur, c'est tout ce qui, dans notre vie, nous touche au plus profond de nous-mêmes. Alors, ce peut être, comme je vous le disais, une blessure, une souffrance, mais ce peut être aussi une très grande joie. Ce peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une guérison, ça peut être un sentiment immense de reconnaissance, de joie et d'exultation. La profondeur d'où l'on est appelé à invoquer l'Éternel, comme dans ce psaume 130, c'est une profondeur qui creuse. Ce n'est pas une profondeur vide, mais c'est au contraire une profondeur pleine de quelque chose qui déborde. Et je pense que nous pouvons tous trouver dans notre vie quelque chose qui nous approfondit et qui nous mène au-delà de nous-mêmes, au-delà des apparences, au-delà du quotidien, au-delà de ce qui semble évidemment superficielle, quelque chose qui nous amène au plus profond de nous-mêmes, au tréfonds de notre être, dans ce qui est le sens même de ce qui nous touche le plus au cœur possible. Il y a des événements comme ça qui nous touchent dans la profondeur même de notre être et qui nous, je dirais, qui nous fait même déborder de quelque chose. Donc ce n'est pas une profondeur de vide, c'est plutôt une profondeur de trop-plein, une profondeur qui nous happe entièrement, qui nous prend pour nous prendre tout entier. Dans cette profondeur, donc, qu'elle soit négative ou positive, que faire ? Eh bien, le psaume nous dit qu'il faut appeler, qu'il faut crier. Et là, le verbe utilisé là m'intéresse parce que, vous savez, c'est une de mes marottes, et je suis désolé de vous l'imposer une fois de plus, mais le verbe utilisé là en hébreu a un champ sémantique assez étonnant. C'est le problème des traductions, c'est qu'un mot dans une langue n'est pas forcément absolument équivalent au mot que l'on utilise dans la traduction. Et là, le verbe « kara » en hébreu, qui veut dire, que l'on traduit là par « des profondeurs, je t'appelle », eh bien, peut signifier pas mal de choses, en fait. Il peut signifier « appeler », comme « j'appelle quelqu'un », comme « j'appelle mon ami dans la rue », ou aussi comme « je nomme un enfant qui naît », ou comme « je nomme un objet », donc « appeler » veut dire « kara » veut dire « appeler ». Mais ça veut dire aussi « crier », comme on crie quelque chose, comme on hurle quelque chose que l'on ressent, comme on pousse un cri. Et cela veut dire enfin aussi « proclamer », comme l'on va dire sur la voie publique quelque chose d'important, comme les crieurs dans certains endroits que l'on peut évoquer. Et donc voilà tout ce que l'on est appelé à faire, et c'est donc beaucoup plus riche, comme je vous le disais, qu'en français. Dans la profondeur, nous sommes appelés à crier, à appeler, à nommer et à proclamer. Alors d'abord, première chose à faire, simplement crier. Des profondeurs, je crie vers toi, ô Éternel. Et j'aime ce cri. C'est peut-être la première chose à faire. La première chose à faire dans sa souffrance, dans son mal, dans sa joie, dans sa reconnaissance, enfin bref, dans un sentiment qui nous envahit et qui est débordant en nous, la première chose à faire, c'est de crier à Dieu. Et là, c'est intéressant parce que souvent, la prière est vue par la plupart de nos contemporains comme une demande. Et en effet, voilà, je suis dans une situation difficile, je suis dans l'abîme, eh bien je vais demander à Dieu de me sortir de l'abîme, tout simplement. Eh bien, le mot « demander » est peut-être une des seules significations que l'on ne puisse pas trouver dans le verbe « kara ». Et donc, dans l'abîme, dans la profondeur, je ne demande rien, je crie. Je crie à Dieu, je crie ma douleur, je crie ma souffrance, ou je crie ma joie. Je crie, j'exprime, je dis ce que j'ai sur le cœur, je dis tout ce qu'il y a en moi et qui me rend effectivement plongé dans cet abîme duquel je parle. Alors, et donc c'est non pas demander à Dieu, mais c'est porter devant Dieu ce que je ressens et le porter de la façon la plus forte possible. Peut-être est-ce là le premier sens fondamental de la prière. La prière, c'est porter son sentiment devant Dieu. Parfois, en effet, il serait ridicule, absurde, de demander quoi que ce soit à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je demande ? Quand les choses sont ce qu'elles sont, et qu'à la limite, tout ce que j'ai à faire, c'est de les accepter. Eh bien, que peut faire Dieu ? Et lorsque l'on est pris peut-être dans ce sentiment d'impuissance par rapport à ce que je peux faire moi et même dans ma foi en pensant que de toute façon Dieu n'y peut rien et Dieu ne rendra pas cet être que j'aime et que j'ai aimé et qui est mort par exemple. Mais je peux crier à Dieu. Crier à Dieu, c'est porter ses sentiments devant Dieu et dans la prière, lui exprimer tout ce que je ressens. Exprimer à Dieu ses peines, exprimer ses joies aussi d'ailleurs. Les présenter à Dieu pour les partager avec lui. Et je pense que dans cet acte de la prière, qui consiste à vraiment dire en toute sincérité ce que l'on ressent pour le partager avec Dieu, il y a une sorte d'acte de confiance fondamentale. Et c'est là peut-être la foi. La foi, c'est la confiance en un Dieu qui peut entendre le cri de notre prière. Un Dieu qui peut comprendre ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce qu'il y a au plus profond de notre être. Et je crois qu'il y a là, comme dit le psaume, une oreille attentive, quelque chose qui entend ce cri et qui peut en faire un certain nombre de choses. Il peut en faire pas mal de choses. D'abord, le fait que je puisse crier et que je puisse être entendu est déjà quelque chose d'important. Et puis, je pense que quand on expose à Dieu ses sentiments les plus profonds, eh bien Dieu peut transformer ses sentiments. N'oublions pas que Dieu n'est pas une baguette magique, mais que Dieu est un souffle créateur, et que par conséquent, Dieu transforme tout ce qu'on lui donne, et que dès qu'il y a quelque chose sous la main de Dieu, eh bien, cette chose-là devient vivante, et cette chose-là est transformée dans du plus, en quelque sorte. Et donc, quand je porte devant Dieu ce qu'il y a en moi de sentiments négatifs ou positifs, eh bien, je les pose, en quelque sorte, sur la plateforme d'action de Dieu, et je permets à Dieu de souffler dessus pour les transformer, pour leur donner vie, pour les ressusciter, pour les transfigurer et pour les faire en sorte que ce que je lui ai exposé devienne non pas porteur de mort, d'égoïsme, de jalousie, de crainte, mais devienne porteur de vie. Parce que tout sentiment peut être porteur de mort, que ce soit la peine, ça on le comprend, mais même les joies, quand on a une joie et que tout à coup on se dit « je veux me la garder pour moi et pour personne d'autre » ou alors encore que les joies que je vis, si profondes soient-elles, peuvent devenir au contraire une crainte. « Ça ne va pas durer, c'est trop beau pour être vrai » et à ce moment-là on est dans la peur. Eh bien, crions à Dieu, libérons nos peines, libérons nos joies, libérons nos sentiments, ayons le courage d'être tristes ou de rire ou d'être joyeux. Et de l'exprimer à Dieu, et Dieu pourra transformer ses sentiments dans des sentiments encore plus profonds, je dirais, dans des sentiments créateurs, dans des sentiments positifs, dans des sentiments qui sont tournés vers la vie, vers le devenir, et non pas vers l'éphémère, vers la limite et vers la mort. Je pense que cela est extrêmement important. Et d'ailleurs, très souvent dans l'Ancien Testament, on trouve cette expression « le cri de ma prière », dans les psaumes en particulier. On parle du cri de la prière. Et je crois que s'il y a là quelque chose qui est peut-être au cœur même de la prière chrétienne. Et c'est pourquoi aussi j'ai voulu vous lire ce passage étonnant de la mort du Christ. Quand on nous dit qu'au moment de mourir, Jésus poussa un grand cri. Vous savez que les théologiens se sont toujours beaucoup interrogés sur ce cri de Jésus, de savoir ce qu'il pouvait signifier. Alors on imagine une sorte de cri de douleur et d'agonie, mais je ne crois pas. Ça, c'est la seule explication que à peu près personne ne retienne, parce que Jésus avait suffisamment souffert avant pour avoir eu le temps de crier s'il avait voulu le faire. Et ce n'est pas au moment de mourir qu'il aurait crié plus qu'à un autre moment. Mais je crois que ce cri, c'est effectivement le cri de la prière fondamentale du Christ qui remet toute sa vie et qui remet, je dirais, tout ce qu'il ressent à Dieu lui-même. Et d'ailleurs, l'Évangile nous dit, au moment à ce passage-là, il dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri ». Or, avant, il n'y en a pas d'autre, sauf quand il crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là aussi, c'est étonnant. Voilà cette prière de Jésus en deux cris qui sont simplement l'expression la plus fondamentale de ce qu'il ressent. Au début, l'expression de son doute ou de sa crainte peut-être. Et comme il l'exprime, Dieu lui redonnera la confiance, effectivement. Et puis finalement, le cri final qui est celui où Jésus exprime tout à Dieu en lui remettant l'ensemble de son existence. Ensuite, vous disais-je, des profondeurs, je crie vers toi, mais on peut aussi le traduire autrement. On peut dire « des profondeurs, j'appelle vers toi ». Et certaines traductions d'ailleurs mettent cela. Et ce verbe « appeler » que l'on peut trouver là dans ce « kara » peut encore être, comme je vous l'ai dit, compris dans deux sens. Soit dans le sens de « appeler » comme « convoquer », c'est-à-dire « j'appelle quelqu'un à venir » comme un professeur qui fait l'appel, soit de « nommer ». Alors, le premier sens de « convoquer » finalement dit un petit peu la même chose que ce que nous venions de trouver. Parce que des profondeurs, j'appelle Dieu. C'est-à-dire, je l'appelle à venir et je le convoque. J'invite Dieu pour qu'il vienne avec moi dans ma profondeur. Parce que quand on est dans la profondeur, il est difficile d'en sortir. Et là, il ne demande même pas que Dieu le fasse sortir de la profondeur, mais j'appelle pour que Dieu vienne dans ma profondeur. Donc j'appelle Dieu pour ne pas vivre tout seul, j'appelle Dieu pour le rendre présent dans mon existence, dans mes joies et dans mes peines. Et peut-être est-ce là le problème du gouffre, ce gouffre dans lequel on risque de se sentir seul parce qu'il n'y a personne pour comprendre et pour partager notre peine ou notre joie immense. Convoquer Dieu, c'est l'inviter à venir pour ne pas vivre ces choses-là tout seul, pour pouvoir partager sa vie, partager ses préoccupations avec quelqu'un qui est Dieu. Et ça, c'est essentiel, et je crois que ça change tout, parce que quand on n'est pas tout seul, rien n'est insurmontable. Et puis ensuite, je vous disais, des profondeurs, j'appelle Dieu. Eh bien, appeler veut dire aussi nommer. Et là, c'est un peu plus curieux comme signification. Dans les profondeurs, j'appelle Dieu. Ça veut dire nommer, et c'est d'ailleurs, si j'étais un bon exégète, je devrais dire que c'est le sens premier du mot kara, parce que l'exégèse rabbinique dit que le sens d'un mot, le sens principal d'un mot, est donné par sa première occurrence dans la Bible. C'est-à-dire, on cherche dans la Bible la première fois où le mot est utilisé, et ça donne la signification fondamentale du mot. Or, kara est utilisé pour la première fois dans la Genèse, quand Dieu crée la lumière, et on nous dit, Dieu appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Il y eut un jour, il y eut une nuit, premier jour. Et donc, il appela la lumière jour. Appeler, dans ce sens, veut dire effectivement nommer. Appeler quelque chose ou quelqu'un par son nom. Alors, quand on dit que dans la profondeur, eh bien, je nomme Dieu. C'est là une démarche un petit peu plus intellectuelle, mais qui n'est pas moins importante. Chercher dans la profondeur, chercher à nommer son Dieu, c'est-à-dire se demander à quoi l'on croit vraiment. Nommer, c'est reconnaître. Et dans la profondeur, j'essaye de nommer dans tout, quand tout part dans tous les sens dans mon existence, pour une raison positive ou négative, une fois de plus, il faut que j'arrive à nommer qui est Dieu pour moi. Chercher à nommer son Dieu, se demander, mais dans le fond, Dieu, c'est quoi pour moi? Alors, quel est le sens de cela? C'est parce que Dieu, c'est le fondamental. Dieu, c'est l'immuable. Dieu, c'est le roc. Dieu, c'est l'absolu. Dieu, c'est la seule chose qui ne puisse pas tomber dans un gouffre, la seule chose qui ne puisse pas disparaître, la seule chose qui ne puisse pas être transformée. Dieu, c'est l'éternel. Et quand je suis dans une situation où tout part dans tous les sens, eh bien, je dois nommer mon Dieu, c'est-à-dire quel est pour moi le roc, le rocher, le fondamental, l'essentiel, ce qui ne peut pas être enlevé et ce qui ne peut pas être détruit. Quelle est la valeur ultime? Quel est le but fondamental de ma vie? Quelle est ma raison d'être? Quel est le sens de toute chose? Quelle est ma préoccupation ultime? Quel est le fondement de toute chose? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui est fondamental auquel je peux me raccrocher? Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses années, j'avais prêché sur ce texte de Paul, à propos pour ma consécration, pour mon premier sermon de consécration, Et j'avais choisi ce verset que je continue de trouver comme fondamental. « Je sais en qui j'ai cru. » Et pouvoir dire, quand tout va dans tous les sens, « Je sais en qui je crois », c'est là une accroche, une ancre, un point fixe absolument essentiel qui est, je crois, tout à fait fondamental. Et donc voilà, dans les profondeurs, je nomme mon Dieu pour chercher à trouver un point d'ancrage, un point fixe, et dans ce vide, dans ce gouffre dans lequel je tombe, trouver ce qui, dans ma vie, est de l'ordre du Dieu, c'est-à-dire du transcendant qui ne peut pas être happé par ce gouffre ou justement tomber dans l'abîme pour pouvoir me raccrocher à lui. Et du coup, j'en arrive au troisième sens de Kara, qui veut dire proclamer. Proclamer, et ça c'est un texte qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, puisque le verbe est utilisé dans Ésaïe 40, quand on dit « une voix crie dans le désert », et ben c'est Kara, et la voix dit « et que crierai-je ? Et tu crieras, toute chair est comme l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. » Et donc là, ça veut dire « que proclamerai-je ? Que dit ?» Une voix proclame dans le désert, une voix qui crie. Proclamer dans le sens du témoignage. Et là, il y a encore une autre pédagogie dans l'épreuve et dans le gouffre, ou même dans une joie qui me happe et qui m'empêche de me tourner vers les autres, c'est justement de sortir de moi-même. Sortir de moi-même pour proclamer et pour dire Dieu à l'extérieur, au lieu de me retourner sur ma souffrance ou de me renfermer égoïstement sur ma jouissance. Proclamer, c'est ce que je dois faire justement une fois que j'ai crié ma détresse ou ma joie, une fois que j'ai trouvé qui est ce Dieu dans lequel je crois, que j'ai renforcé et recentré ma foi, et bien maintenant, je la proclame. Je proclame la vie quand je suis malade. Je proclame l'espérance quand je désespère. Je proclame la grâce. Je proclame la grâce quand je vis de la grâce. Je proclame le pardon pour tous quand moi je me sens pardonné. Proclamer, c'est vouloir partager ce que l'on reçoit, c'est vouloir donner comme on a reçu, c'est de vouloir, je dirais, universaliser ce qui pour soi est essentiel et vital, que ce soit parce que cela me console, me sauve, me remplit d'espérance, ou parce que moi, je vis cette joie. Et si je la partage, alors cette joie, cette espérance devient quelque chose qui n'est plus passager et qui n'est plus de l'ordre du subjectif, mais ça lui donne une sorte de dimension d'universel, et donc ça la rend en quelque sorte plus forte et plus durable. Je crois en effet que l'on vit de ce que l'on proclame, et c'est ce que l'on proclame et c'est ce que l'on dit au monde qui nous fait vivre. Il est vrai que quand on prêche aux autres, on se prêche toujours un petit peu à soi-même, et je crois que quand on prêche aux autres, on se prêche aussi beaucoup à soi-même, et que donc nous sommes souvent les premiers bénéficiaires de cette proclamation que nous sommes invités à faire. Des profondeurs, je crie, j'appelle, je proclame à toi, Seigneur. Et là se passe un drôle de changement dans le psaume. C'est que Dieu change de nom. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Seigneur, écoute ma prière. Et donc on passe de Éternel à Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur. On passe d'un Dieu conceptuel à un Dieu personnel. On passe de ce Dieu un peu philosophique dont je parlais, je sais en qui j'ai cru, dans un Dieu qui écoute, dans un Dieu qui a des oreilles. Et là, c'est une croyance fondamentale, je crois, qui donne le sens de toute cette démarche que j'ai évoquée. C'est que ce que j'ai dit, même dans le cri du commencement, ce n'est pas un cri primal, comme font certaines sectes en disant « Exprimez vos sentiments !» Ce n'est pas simplement cela. Ce n'est pas non plus simplement des concepts ou des idées philosophiques. Ce n'est pas juste se raccrocher à des valeurs, parce que Dieu n'est pas qu'un absolu cosmique, mais Dieu m'entend. Dieu a une oreille attentive. Et là, il y a là une conviction très forte que Dieu peut répondre à ma prière. Et que donc ce n'est pas simplement une façon d'exprimer ce que j'ai sur le cœur, mais que par ailleurs il y a quelqu'un qui m'écoute. il y a un Dieu qui répond à ma prière et qui peut faire pour moi concrètement plein de choses. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Sans doute plein de choses, mais là le psaume en dit simplement une. Ce qu'il dit, c'est que la chose fondamentale que Dieu peut faire, c'est de pardonner le péché. En fait, il peut surtout peut-être nous guérir du sentiment de culpabilité. Sentiment de culpabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire nous donner un esprit libre, sans regret, sans remords. Ce n'est pas facile, mais c'est fondamental. Et puis, en nous libérant du sentiment de culpabilité, parce qu'on se sent toujours coupable. S'il nous arrive du malheur, on pense que c'est de notre faute. S'il nous arrive de la joie, on se sent coupable d'avoir de la joie. Bref, l'être humain est mal fait de ce côté-là. Et donc, la première chose que peut nous donner cette prière, c'est la libération. La libération, car auprès de toi est le pardon, afin, dit le psaume, qu'on te craigne. La phrase est absolument incroyable. Auprès de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. En français, ça ne colle pas. Si Dieu nous pardonne, il n'y a pas à le craindre. Mais non, c'est justement parce qu'auprès de Dieu est le pardon, afin qu'on le craigne. Et c'est parce que Dieu nous pardonne qu'on peut le craindre. Mais ce n'est pas craindre au sens de la peur, c'est au sens du respect. Afin que je te respecte et que j'aie, dirais-je en français courant, de la considération pour toi. Et c'est là le dernier point essentiel et fondamental, c'est la hiérarchie des choses. Afin que je considère Dieu comme étant la chose essentielle et fondamentale, que j'ai du respect pour lui. Parce que je crois que la plupart de nos problèmes viennent souvent d'un problème de hiérarchie, effectivement. Lorsque nous nous prenons pour Dieu, lorsque nous nous prenons pour la chose la plus importante au monde, et ça, c'est très angoissant. Parce que du coup, ce qui nous arrive devient infiniment important, comme si nous étions nous des choses si importantes que cela, ou parce que le bien qui nous arrive devient quelque chose qui a un enjeu considérable et qui devient angoissant parce qu'il risque de ne pas durer. Eh bien, la hiérarchie est là ce qui peut tout remettre en ordre, justement. Une hiérarchie qui n'est pas dans la crainte ou dans la peur, mais qui est justement dans la confiance dans le pardon de Dieu, qui nous libère et qui nous permet de remettre les choses dans le bon sens. C'est parce que Dieu me pardonne que je peux le considérer comme une chose importante parce que je n'en ai pas peur, justement. En fait, il faut comprendre que nous ne sommes pas grand-chose et que c'est Dieu qui est tout, que c'est Dieu qui est l'essentiel. La question que je posais tout à l'heure, à quoi j'attache ma vie, est là une question fondamentale. Quelles sont les hiérarchies dans mon existence ? Si je me mets tout en haut, je suis condamné à souffrir. Si au contraire, je mets Dieu au centre de mon existence et que je me considère moi comme seulement dépendant de Dieu, alors tout va bien, puisque Dieu lui-même est par définition l'immuable, l'absolu, l'inaltérable, et que Dieu lui-même ne peut être entraîné dans aucun gouffre qui soit. Cela dit, tout ne se passe pas aussi vite. Et il y a dans cette démarche quelque chose de l'ordre de l'attente. Et j'aime à la fin de ce psaume cette image extraordinaire du veilleur qui attend l'aurore. Comme le veilleur guette l'aurore. Oui, comme le veilleur guette l'aurore. Cette petite phrase répétée deux fois dans le psaume, deux fois à la suite, nous montre l'importance fondamentale pour finir de la patience et de la persévérance. Oui, je sais que tout cela est fondamental et qu'en même temps tout cela n'est pas si facile et que je suis moi un petit peu dans la situation du veilleur qui guette l'aurore. Je sais que le jour va venir, je sais que la lumière existe. Bon, pour l'instant je suis dans la nuit, c'est vrai, mais j'attends, je veille et j'espère. Et je suis comme le veilleur qui attend le jour, comme le veilleur qui attend le jour. Je suis comme ça. Mais ce n'est pas désespérant d'être comme le veilleur qui attend le jour. Parce que le veilleur, il sait que l'essentiel, il est devant et qu'il n'est pas derrière. Le veilleur attend le jour et il a là une position d'esprit extraordinaire parce qu'il ne regrette pas le jour passé. Il attend le jour qui vient. Et il attend le jour qui est devant. Il est donc tourné vers l'avenir. Et donc, être comme le veilleur qui attend le jour, C'est savoir que nous ne sommes pas dans un gouffre comme quelqu'un qui s'enfoncerait toujours dans une nuit sans fin, mais je suis dans un noir peut-être actuellement, mais j'attends le jour qui vient. Alors certains veulent lire cela en disant j'attends le jour parce que je suis appelé à aller dans le royaume de Dieu, donc à ma mort tous mes problèmes seront résolus. Mais ça, je crois que ce n'est certainement pas la lecture du psalmiste. D'abord parce que l'Ancien Testament ne croyait pas à la vie éternelle et à la résurrection. Et d'une certaine façon, ça donne aux psaumes et aux textes encore plus de vigueur. Et donc, le veilleur qui attend l'aurore, ce n'est pas du tout qu'il attend de la mort qui le délivre. C'est parce qu'il sait qu'après la pluie, le beau temps, et qu'il s'en va, ceux qui sèment dans les pleurs, ils ramassent dans la joie, et que les choses ne sont pas toujours comme elles sont, mais qu'il y a effectivement quelque chose devant nous. Il y a quelque chose devant nous. Il y a toujours du soleil après la pluie, et du jour après la nuit, et même dans l'épreuve, il y a toujours, au-delà, de la vie possible, de l'espérance possible, de la joie possible, du rire possible et de l'espérance. Je crois que c'est surtout de trouver une façon de vivre, une façon de pouvoir se tourner vers l'avenir, d'être heureux, d'être en paix, d'être confiant et d'être même joyeux. Et du coup, je me retrouve sur ce début de ce psaume. Je vous ai dit que ce psaume commençait en disant « psaume des montées ». Et donc c'est un psaume pour monter, et voilà qu'on monte à partir du fond de l'abîme. On pourrait même dire « psaume pour remonter du fond de l'abîme », « psaume pour remonter des tréfonds », « psaume pour remonter des profondeurs ». Eh bien, pour tout cela, il y a toute cette démarche extraordinaire de crier, de nommer, d'appeler, de proclamer, et puis finalement d'être comme ce veilleur qui attend la lumière qui arrive. Et donc ce n'est pas du tout un psaume de tristesse et de désespoir, mais il y a tout là-dedans, un psaume de joie, de confiance, de vie, d'espérance, parce que nous savons que le jour arrive et qu'il est là. Amen.